Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix sur Europe 1 avec Gérard Carreau, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Emmanuel Macron, pendant ce temps, a repris ses distances avec le dossier des retraites. Il s'est consacré cette semaine à la présentation d'un grand plan sur l'eau depuis les rives du lac artificiel de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes. La semaine prochaine, il sera en visite en Chine et la semaine d'après, il sera en visite aux Pays-Bas. Que pensait de son attitude, Michel Cotta ?
Je pense que c'est une attitude un peu difficile de croire qu'il peut prendre du recul par rapport aux retraites. Les gens pensent qu'à ça. C'est au fond la conversation de tout le monde, l'interrogation de tout le monde, la peur de beaucoup de gens. Quand est-ce que ça s'arrête et évidemment, c'est très difficile pour lui d'engager un autre sujet, de s'engager dans un autre sujet. Par exemple, on l'a regardé dans l'eau. C'est très difficile parce que quand il parle de l'eau, j'ai vu les mesures. C'est intéressant. On doit effectivement faire attention à l'eau, etc. Mais on se dit, bon, d'accord, mais pourquoi c'est lui qui en parle maintenant?
Oui, parce que son ministre en parle très bien, là,
Monsieur Béchu.
Ouais, même chose. Très bien. Plutôt mieux que lui, d'ailleurs.
Il faut qu'il se déplace en France. Est-ce qu'il peut vraiment aujourd'hui se déplacer? Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, l'image du président de la République un peu isolé, avec évidemment les maires et les élus locaux, et de l'autre côté des manifestants, n'est pas une formidable image. C'est-à-dire que
très peu de manifestants. Il y en avait 150.
Alors, mais enfin, n'empêche qu'ils n'étaient pas là. Ils étaient loin. On a l'impression quand même que c'est très difficile pour Macron aujourd'hui d'aller au contact des Français. En ce moment, maintenant, et que ce soit en Chine ou ailleurs, ça ne changera rien.
Gérard Carreau.
Oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Michel. J'ai trouvé, et je pense que beaucoup de gens ont vu les images à la télévision, dans ce décor très beau d'ailleurs de Serre-Ponçon et du lac de Serre-Ponçon, où il était venu pour parler de l'eau, qui est un vrai problème d'ailleurs, un grave problème pour notre pays et pour d'autres pays. Il était pathétique. Il était pathétique parce que on avait l'impression que ce qui, d'ailleurs, regardez les reprises dans la presse de son discours sur un sujet, je viens de le dire, mais très important.
Oui.
Zéro, quoi. Enfin, très peu, quoi. Des petites choses. Le minimum vital pour les reprises. Et il était là, pathétique, parce qu'il était seul, avec une quinzaine de dirigeants locaux qui faisaient un peu... C'était sa foule, là. Et puis, il y avait des grands espaces. Et puis, au loin, on apercevait à la fois les policiers, et puis on apercevait les deux, je sais pas combien, mais peut-être 100 manifestants. Mais c'était pas ça, c'était le vide. Ça avait ce côté, effectivement, quelqu'un, je sais plus qui l'a rappelé, peut-être même sur Europe, je crois, peut-être même dans votre émission, parce que ça m'a frappé. Il a rappelé, effectivement, cette image des villages Potemkin, Catherine II de Russie, quand elle va, on lui préparait le truc, on voyait le village, alors que derrière c'était un décor, bon. Et c'était un peu ça. Et ça m'a fait penser à cette réflexion, toujours sur Europe d'ailleurs, du politologue...
Stéphane Elbouy du JDD qui disait ça.
Mais voilà, mais je pense aussi au politologue Jean Garrigue, qui a dit, lui, l'historien, et qui intervient souvent sur Europe, la légitimité que revendique le président Macron est perçue comme une coquille vide par l'opinion. Ça m'a frappé. Ouais. Parce que j'ai trouvé que c'était très juste. J'ai trouvé que c'était très juste. Que c'était que les gens, quelque part, personne ne dit qu'il n'est pas président. Il a été réélu à 58%.
Mais c'est comme si ça comptait pas.
Mais c'est comme si c'était passé. Ouais. C'était déjà, hop, on est un an après. C'est une coquille vide. Alors... Et si c'est vraiment une coquille vide, c'est gravissime pour quelqu'un qui a encore 4 ans à gouverner la France.
C'est un problème de légitimité. Il se pose pour tout le monde et pour toutes les institutions. On en parlera peut-être. Mais il se parle pour toutes les institutions. Oui. Au fond, on assiste aujourd'hui à une démolition systématique de toutes les institutions. On assiste à celle du Parlement qui se ridiculise. On commence à assister, et on va peut-être reconnaître plus un Conseil constitutionnel, finalement, à quoi ça sert. Bon, alors vous allez voir, suivant les résultats, s'il servira, s'il trahit, Bon, on assiste quand même à un formidable... plus de légitimité.
Ça s'appelle une révolution rampante.
Charles Villeneuve.
Une révolution rampante.
Encore faut-il que des gens les fassent. Encore faut-il que les gens fassent autre que ramper.
Écoutez, mes camarades, finalement, les dommages sont faits. Et il n'a aucun intérêt, le président de la République, à accepter savoir, certains disent, il doit savoir reculer pour mieux redémarrer. C'est l'hypothèse de travail, d'ailleurs, d'un des meilleurs spécialistes du social en France, Pierre Ferracci. Mmh. Bon, moi, je crois qu'il n'a aucun intérêt à accepter une pause ou une médiation remettre dans un bourbier qui va durer 6 à 12 mois. Les dégâts politiques et sociaux sont faits, ne s'effaceront pas. Les syndicats seront de toute façon au vent debout. La cote de popularité du président sera en berne, c'est évident. Le gouvernement sera assiégé, affaibli, bunkérisé, tout ce que vous voulez. Mais il reste les bénéfices économiques et quand même financiers de la réforme et la posture du chef d'État qui a réussi à faire cette réforme par rapport même au marché financier compte tenu de la dette abyssale, 3000 milliards de dollars.
Et accepter la médiation pour lui, c'est capitulé.
De toute façon, tout est suspendu aujourd'hui au Conseil constitutionnel.
Exactement.
Qui va dire si oui ou non.
14
avril, qui va dire si oui ou non le fameux article 4, c'est-à-dire les 64 ans, est appliqué. Bon, mais ce qui va être intéressant, est-ce que le Conseil constitutionnel va accepter en même temps la mise en lancement du référendum populaire, le fameux RIC, ce qui veut dire, si c'est oui, qu'au moment où il dit oui à 64 ans, c'est la contestation qui va continuer. Parce que tous les gens qui veulent ce référendum et qui sont nombreux vont essayer de trouver les 5 millions de gens qui peuvent signer et peut-être qu'ils pourraient le trouver. Après quoi, il va falloir attendre 9 mois. Après quoi, il va attendre peut-être que les deux assemblées décident si on fait une nouvelle loi. Mais tout ça, ça entretient comme ça, un climat de contestation et un tapis de braise qui va être toujours là.
Oui, mais
s'il dit oui à ces deux choses, vous voyez, c'est complètement...
Tu exclus une censure totale du Conseil constitutionnel.
Ah ben, moi, j'exclus rien du tout.
Non,
parce
mais ils peuvent parfaitement, ils ont les moyens.
Il y a un aspect de dimension constitutionnelle.
Mais là, je crois que le Conseil constitutionnel fera à la fois une décision juridique, mais en arrière-plan, ce sera vraiment une décision politique.
Oui, la décision la plus importante, c'est pas la loi, parce que, à mon avis, la loi, pour le Conseil constitutionnel, c'est très difficile de la retoquer antérieurement.
Mais
l'acceptation du référendum, c'est un an de bombe. C'est
Une
bombe prête à exploser pendant un an.
Et c'est 10h25, on se retrouve dans un instant, on reparle du Conseil constitutionnel et puis aussi d'une crise de communication qui arrive. À tout de suite.